L'histoire des féministes par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. C'est le numéro 2, c'est la suite de l'introduction, suite et fin de l'introduction. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, on va finir donc l'introduction aujourd'hui, mais je voudrais d'abord faire un petit mot de rappel sur ce que nous avons dit précédemment, la première émission le 5 septembre, parce qu'il y a plus d'un mois de cela. Donc, lors de cette toute première émission d'introduction, nous avons expliqué le titre, l'histoire des féministes. Nous avons donné les différentes définitions des mots féministe, antiféministe, mouvement féministe et patriarcat. Et nous finissons aujourd'hui, dans cette émission du mois d'octobre, l'introduction de notre histoire des féministes. Si nous avons le temps, nous entamerons la première partie, mais j'imagine que nous n'aurons pas vraiment le temps. Voilà. Donc, je continue cette introduction. Il y a une histoire du féminisme, mais les historiens l'ont négligée la plupart du temps et ne l'ont pas intégrée dans la grande histoire, grande G majuscule, histoire H majuscule. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de tout récit historique, il y a la volonté de savoir pour être informé et pour informer. Mais cette volonté, c'est cette volonté qui a manqué aux historiens hommes à cause de leur vision androcentrique de l'histoire de l'humanité, qu'ils ont déclinée quasi exclusivement au masculin. Car écrire l'histoire des femmes aussi suppose qu'on les prenne au sérieux, qu'on ne les juge pas insignifiantes, qu'on accorde au problème du rapport entre les sexes un poids, une importance dans les événements historiques ou dans l'évolution des sociétés humaines. Je cite là l'historienne Michèle Perrot. Or, nous avons le besoin et le désir de comprendre ce problème pour agir. C'est ce qui motive notre propos. Comme phénomène collectif, l'histoire des féministes, l'histoire du féminisme, se fait au XIXe siècle. Je précise que nous parlons essentiellement, quoique non exclusivement, de la France. Elle avait commencé plus tôt, cette histoire collective, pendant la Révolution française de 1789, avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, fin XVIIIe siècle. À ce moment-là, les femmes féministes qui suivent les débats préparatoires à la rédaction de la Constitution sont scandalisées de n'entendre parler que des hommes, des droits des hommes, des garanties des droits de tous les hommes, ce qui est très bien, mais qui exclut carrément les femmes. Pour les rédacteurs de ce texte fondamental, les femmes font le bonheur du citoyen, elles ne sont pas des citoyens. Elles sont des citoyennes, d'ailleurs on les appelle citoyennes, mais des citoyennes sans citoyenneté. Elles n'ont pas droit de cité, selon l'expression du marquis de Condorcet, une des rares voix masculines à s'être élevée contre cette prétention des hommes à représenter seule l'humanité tout entière. Eliane Viennot, professeure de littérature émérite, dit dans son livre qui a pour titre « En finir avec l'homme avec un grand H », chronique d'une imposture, 2021, elle dit « Alors que la Constitution est presque au point et que l'égalité des sexes n'y a toujours pas fait son entrée, la colère des femmes est à son comble. » Elle cite « Etta Palms d'Elders ». Je vais épeler. Etta, c'est le prénom E-T-A, plus loin Palms, P-A-L-M-S, D'apostrophe A-E-L-D-E-R-S. C'est une féministe néerlandaise qui a créé le premier cercle exclusivement féminin de France. Elle a prononcé devant l'Assemblée un discours intitulé « Discours sur l'injustice des lois », où elle s'adresse directement aux hommes. « Partout, les lois sont en faveur des hommes, dit-elle, aux dépens des femmes, parce que partout, le pouvoir est en vos mains. » Si vous voulez que nous soyons zélés pour l'heureuse Constitution qui rend aux hommes leurs droits, commencez donc par être juste envers nous. Eliane Viennot cite encore ce texte d'une anonyme, une femme en colère. Est-il permis de garder le silence quand, après avoir décrété les droits de l'homme, on a entendu ceux qui ont concouru à cette œuvre dire avec ostentation que les droits de la femme n'y étaient pas compris, que les femmes n'étaient rien et ne pouvaient être autre chose que les bêtes de somme de l'humanité. À partir de 1830, les femmes se constituent en groupes politiques. Ensuite, en 1848, en pratique autonome par rapport aux partis politiques, dans des clubs de femmes et dans des journaux spécifiques qu'elles fabriquent et éditent elles-mêmes. Donc, ces dates correspondent à des évolutions de l'action des premières féministes, l'action collective, 1789, 1830, 1848. Mais les dirigeants masculins, détenteurs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, refusent de tirer les leçons de cette activité militante collective des femmes. On cite cet exemple, l'instauration du droit de vote pour tous en 1848, dit universel, mais qui reste dédié aux seuls hommes. Il ignore totalement la moitié de la population, les femmes. Comme dit Virginia Woolf, que nous avons déjà cité plusieurs fois, l'histoire de l'opposition des hommes à toute émancipation des femmes est plus révélatrice encore que l'histoire de cette émancipation. Rappelons que les révolutionnaires étaient très heureusement inspirés par Jean-Jacques Rousseau, auteur pré-romantique prônant le retour à la nature et l'égalité entre les êtres humains dans son ouvrage « Le contrat social ». Mais qui, cependant, avait dit, dans un autre ouvrage, un traité sur l'éducation, intitulé « L'Émile », il avait dit « Toute fille doit avoir la religion de son père et toute femme celle de son mari ». Donc, le mouvement féministe a ses créatrices, ses animatrices, ses actrices, toutes des femmes courageuses, car nous le voyons bien, il en faut du courage pour adopter et tenir une posture d'opposition au sein d'une société masculine acharnée contre les féministes. Ce sont les féministes de tous les temps et de tous les milieux. Thank you. Je reprends donc pour dire le plan général de ces émissions qui vont se succéder dans les mois qui viennent. Remontant le temps, ce récit commencera en première partie par l'évocation des féministes pionnières, des personnes actives, agissantes, qui, sans en avoir toujours conscience, ont de siècle en siècle fait avancer leur temps. Comment ? Mais par l'exemple de leur parcours individuel, le choix de leur attitude singulière, car elles sont des personnalités fortes, capables d'adopter une façon de vivre personnelle, allant à contre-courant de si vieilles habitudes, us et coutumes misogynes de leur temps. On les appelle les proto-féministes. Elles sont le plus souvent en révolte ou en rupture contre leurs conditions de vie, le rôle qui leur est assigné par la société mâle dans la vie privée comme dans la vie publique, celui d'épouse et de mère reproductrice, éducatrice des enfants. Nous évoquerons quelques-unes de ces femmes rebelles qui ont montré la voie, qui sont des femmes de toutes les conditions, paysannes, nobles, bourgeoises ou domestiques, qui, les premières, ont lutté toutes seules pour leur liberté et, en premier lieu, leur liberté de penser. Car il faut d'abord libérer son esprit pour agir ensuite. Par là, elles ont prouvé que les femmes peuvent exercer toutes les activités humaines. La deuxième partie fera un retour sur les féministes de la première vague, fin 19e et début 20e siècle, celles qui se sont attachées à obtenir les droits civiques et politiques, droit de vote, c'est-à-dire le droit d'être électrice et éligible, droit au divorce, droit à l'union libre, à une instruction des filles égale à celle des garçons, à l'égalité des salaires, etc. La troisième partie traitera des féministes de la deuxième vague, la deuxième moitié du XXe siècle, les années 1960, 1970 et 1980. C'est ma génération, la génération de celles qui ont revendiqué, manifesté dans la rue, qui se sont battues contre l'État, les institutions, les élus, majoritairement masculins, pour leur arracher ce qu'on appelle les droits reproductifs, à savoir le droit à la contraception, à l'avortement, celles qui ont lutté contre l'impunité des violeurs, comme par exemple Gisèle Halimi, mais aussi pour d'autres droits comme l'égalité salariale et professionnelle non acquise par les précédentes féministes. Nous nous attarderons sur les valeurs morales et éthiques portées par l'action des féministes de ce moment et, en premier lieu, l'universalité de la situation des femmes. Ces décennies ont aussi vu apparaître le féminisme institutionnel ou féminisme d'État, qui était un progrès, mais qui correspond aussi en même temps au creux de la vague pour les féministes militantes. Alors, la quatrième partie parlera des féministes de la troisième vague, fin XXe siècle, c'est-à-dire les années 1990, et au tout début de ce XXIe siècle. Ces féministes ont braqué le projecteur sur deux des multiples aspects de la vie des femmes en tant que groupe hétérogène. Premièrement, sur la situation de groupes de femmes en souffrance spécifique minoritaire qui sont des tabous dans la société. Pour aller vite, on les appelle les minorités de genre, donc les homosexuels, les transsexuels, les prostituées. Deuxièmement, elles ont braqué le projecteur sur l'effet du cumul des discriminations. Autrement dit, sur l'entrecroisement complexe des différents rapports sociaux de domination. Domination de la classe sociale, du genre, de la race. Le mot race est ici employé dans son sens culturel et social, pas dans son sens biologique, bien sûr. Certaines femmes sont doublement ou triplement opprimées. Ainsi, on peut trouver, fondue en une seule femme, la discrimination de classe sociale, la discrimination sexiste, la discrimination raciste. Une situation particulièrement bloquante, aggravant la vulnérabilité, donc la souffrance psychique de la personne. À partir de ce moment, se crée un véritable clivage entre les féministes elles-mêmes. Il s'agit de savoir quelle est la forme de lutte prédominante à mener pour combattre la domination masculine dans ses multiples avatars. Je cite là Danielle Kergoat, une chercheuse. Alors, la cinquième et dernière partie, ou dernier épisode, comme vous voudrez, si on considère qu'il s'agit d'un feuilleton, s'appesantira sur le féminisme contemporain du premier quart finissant de ce premier siècle, puisqu'on est en 2023-2024 bientôt, animé par les féministes de la quatrième vague, qui, elles, utilisant des outils nouveaux de communication, les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi des outils classiques comme les livres, des livres souvent autobiographiques, pratiquent un militantisme de protestation et de défense. Elles sont axées sur la dénonciation des violences masculines de toutes sortes faites aux femmes au quotidien. Les violences dites conjugales et intrafamiliales au sein même du foyer, les femmes pour lesquelles le danger est à la maison, c'est-à-dire les féminicides et l'inceste, évidemment, mais aussi le harcèlement sexuel et sexiste à l'école, au travail, dans les lieux publics, les lieux de loisirs, les mutilations génitales féminines, les viols et agressions sexuelles, etc. Apparaît aussi, maintenant, en ce moment même, une forme de repolitisation du mouvement féministe. Cette partie offrira également, je dirais modestement et autant que possible, une vision panoramique de l'action des féministes d'autres pays du monde. Car nous sommes toutes liées les unes aux autres, ce qui arrive dans un pays aux femmes a des répercussions sur les autres pays et inversement. Enfin, notre conclusion évoquera le projet sociétal des féministes positives pour sortir enfin du carcan patriarcal et de ses valeurs viriles. Alors voilà pour poser le cadre de ces émissions mensuelles d'environ 30 minutes chacune, entrecoupées d'une pause musicale, et qui devraient se poursuivre pendant 6 à 10 mois selon la longueur des développements de chaque épisode. Le mois prochain, c'est-à-dire le 7 novembre, nous commencerons la première partie, les proto-féministes. Quelles sont-elles? Eh bien, vous aurez la réponse dans un mois. Voilà.
Jacqueline Engrave, merci. Et puis, on va rappeler alors les coordonnées de Femmes Solidaires.
Alors, les coordonnées sont le numéro de téléphone 06 73 83 28 55, qui est le mien, et le mail de Femmes Solidaires, femmesolidaires04, en un seul mot avec deux S au milieu, @orange.fr. Si vous avez besoin de nous parler, d'avoir des précisions sur ce qui vient d'être dit, vous pouvez écrire ou téléphoner tout simplement à ce numéro.
Jacqueline, merci. Et donc, prochain rendez-vous le mardi 7 novembre de 9h à 9h30. On se quitte avec le générique de l'histoire des féministes. C'est une musique empruntée à Barbara Weldens.
était si belle. Elle danse seule sous les regards, elle balance sa robe sage comme un drapeau, un étendard à sa beauté de fan sauvage. Elle est belle. Lui, il est pas beau. Lui qui se tord de désir et qui n'a plus qu'elle dans sa mire, dans un coin un peu dégagé pour mieux pouvoir l'observer. Belle, belle qui tourne et qui se fout, qu'on la déteste ou qu'on l'aime, qui sauf d'elle se fout de tout. Belle qui ne voit qu'elle-même. Lui qui est comme un animal qui se meurt sur le bord d'une route, avec les entrailles qui font mal, le cœur et la gorge en déroute. Lui qui ne sait pas comment faire pour être un peu dans sa lumière. Ah, belle qui ne souffre jamais de rien, qui prend la vie comme elle vient, qui plane sur le désir des autres. Belle qui est son seul apôtre, belle qui s'offre à son reflet comme si cela lui suffisait. D'être belle, d'être belle, d'être belle. Lui qui se bat pour exister dans l'ombre de la vie d'autrui. Lui qui ne sait pas s'inventer, lui qui ne sait qu'être lui. Sans artifice ni costume, qui ne décroche pas de lune, qui ne sait pas faire ces choses-là, qui est toujours le maladroit qu'il était petit à l'école et dont les autres rigolent. Et quand il était abattu au beau milieu de sa détresse. Belle, pendant que toi tu t'en allais, moi je suis allée le ramasser. Et comme un cadeau dérisoire, car sa souffrance m'a supporté, je me suis offerte à lui un soir. Et je ne peux plus l'oublier. De la solitude je l'épargne. Il accepte que je le soigne, que je m'occupe de son cœur et que j'atténue sa douleur. Mais belle, il refuse de guérir de toi. Mes bras ne le consolent pas, mon sein ne le réchauffe pas. Et ma patience ne vient pas à bout de son rêve illusoire, de son amour désespoir. À bout de toi, à bout de toi. Belle, même si tu n'en veux pas, oh belle, il est à toi. La vie s'est mal foutue de toi. La vie c'est mal foutu des fois. La vie c'est mal foutu des fois.